Nous faisons une médecine de pauvres, pas une pauvre médecine. Jean-Paul Vignol, ancien président du CPO, le centre de soins porte ouverte, situé en plein cœur du Sanitas, un des 7 quartiers prioritaires de la ville de Tours. Bonjour monsieur.
Bonjour, donc je suis médecin, docteur Renoux. Je travaille au centre porte ouverte. C'est un centre qui est ouvert depuis les années 90. On est ici depuis, je dirais... 7, 8 ans, peut-être un peu plus, enfin voilà, je n'ai pas les dates précises, on était avant un peu plus loin. C'est des locaux qui ont été aménagés grâce à la ville, notamment au conseil départemental aussi, je pense, enfin un certain nombre de financeurs, disons. Hein. Le but du centre porte ouverte, c'est de donner des soins aux personnes qui n'ont pas accès à la sécurité sociale ou qui ont accès mais qui n'ont pas de mutuelle. Voilà. On a donc une double casquette, un volet social et un volet médical. On a ici justement une assistante sociale qui permet de faire des démarches pour les gens qui n'ont pas de sécurité sociale pour voir comment on peut les amener dans le régime général. Et à défaut de ça, on est ici pour donner des soins gratuits, bien sûr. Donc il y a, c'est ouvert du lundi au vendredi de 14 à 16 heures. On assure des soins de médecine générale, hein, globalement. Il y a 2 médecins à chaque fois. C'est sans rendez-vous et les gens viennent, se présentent, ils sont informés par un certain nombre d'organismes qu'on fonctionne comme ça. On est depuis à peu près 2 ans, on est intégré dans une autre structure qui est plus importante qui s'appelle Émergence. Je ne sais pas si vous connaissez, qui donc s'occupe de l'accueil et on est complémentaire. Enfin, on est intégré, on est complémentaire. Donc les soins bien sûr sont gratuits. Si on délivre des médicaments aussi, il y a une pharmacie, donc on a des médicaments qui sont fournis aussi, liste limitée, mais globalement ce qui concerne la médecine générale, disons. Il y a une infirmière aussi qui travaille ici. Le personnel, bien sûr, est bénévole. Il y a bien sûr un accueil avec un secrétariat, on a des dossiers, etc. Voilà, en gros. Alors, quand on a besoin d'un avis complémentaire, parce que le médecin généraliste ne sait pas tout, il ne peut pas tout faire, on a des aides. On peut avoir accès, pour un certain nombre d'examens limités, à un laboratoire avec qui on a une convention. Et on paye, on est financé par un certain nombre de structures comme l'ARS, la Sécu, le Conseil départemental, etc. Voilà, donc on peut adresser, on fait une ordonnance, on adresse les gens au laboratoire quand il y a besoin. Voilà. On peut adresser aussi à l'hôpital avec l'aide de la PAS. C'est une structure qui permet l'accès aux soins avec une assistante sociale et qui permet pour des soins plus importants qui ne relèvent de l'hôpital. Et donc on peut les adresser à ce moment-là à l'hôpital. Urgent ou pas urgent en fonction, du cas médical. On a aussi des soins dentaires, donc on a des dentistes ici, qui viennent aussi sur rendez-vous. Voilà globalement ce qu'on a on fait donc la médecine générale. Il y a des médecins qui font un petit peu plus de gynécologie, hein, parce qu'il y a notamment des femmes qui ont besoin, qui préfèrent voir une femme, etc. Donc globalement, le public qui vient ici, il y a des gens qui sont, disons, à la rue, qui sont désinsérés d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas la majorité. La majorité de ceux qui s'adressent à notre structure, ce sont des migrants qui arrivent ici de différents pays. Majoritairement, c'est l'Afrique, mais on a aussi l'Europe de l'Est, on a aussi le Moyen-Orient, beaucoup, beaucoup moins l'Extrême-Orient, mais voilà en gros. Hein. Donc notre but ici, ils sont bien sûr ici de passage, disons, sur le plan de la structure médicale. Notre but étant justement de les insérer dans le système général, et donc l'assistance sociale est là pour ça. Hein. Donc ça peut prendre un certain temps, et pendant ce temps-là, s'ils ont besoin de soins, bien sûr, on leur donne. Voilà, en gros, hein, alors je peux vous préciser plus si vous voulez ou si vous avez besoin de...
Alors peut-être que vous pourrez, si vous voulez bien préciser à nos auditeurs, pourquoi ces personnes n'ont pas accès à la sécurité sociale. Parce que peut-être que les gens ne savent pas toujours comment ça fonctionne et comment on accède à la sécurité sociale.
Voilà, alors il y a des gens, que je disais, des gens un peu désinsérés qui sont à la rue, qui sont désinsérés de la société un peu et qui ont besoin d'être remis un peu dans le circuit normal. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui savent lire ou pas, qui savent pas comment faire. Et donc l'assistante sociale est là pour les aider à réintégrer le système. Hein, parce que bien évidemment, ici, on peut pas faire tous les soins et c'est beaucoup mieux d'être intégré dans le système de la sécurité sociale générale, disons. Hein. L'autre cas de figure, ce sont les migrants. C'est comme je vous disais, c'est au niveau nombre, c'est le plus important ici. C'est des gens qui arrivent, qui n'ont pas de la sécurité sociale. Ils n'ont même souvent pas de papier. Donc le but est aussi de les intégrer, de faire les démarches pour qu'ils aient des papiers, qu'ils aient une autorisation de séjour, etc. Hein, donc l'assistance sociale est là aussi pour ça. Et puis ça se fait après pour la sécurité sociale, la CMU en général, etc. Hein.
Voilà, mais juste pour préciser que ce n'est pas systématique d'avoir accès à la sécurité sociale. Il y a d'autres dispositifs, peut-être. Je pense à l'aide médicale d'État, si ça existe toujours.
Oui, alors il y a aussi l'aide médicale d'État, bien sûr, hein, qui alors, je peux, si vous voulez, on a l'assistance sociale qui est là. Elle peut aussi vous donner plus de précisions sur ce domaine-là. Je suis médecin. Bien sûr, je connais un petit peu, mais c'est pas mon domaine. Hein, donc, on pourra voir avec elle, si vous voulez, qu'elle vous précise. Il y a l'aide médicale d'État, en effet, qui s'adresse à un certain nombre de personnes, mais elle vous précisera. Hein.
Alors quand même, le public dont vous parlez, c'est des gens qui sont dans des situations de précarité. Donc j'imagine que ça, peut-être, ça a un impact particulier sur leur vie. Et peut-être qu'ils viennent... Est-ce que vous avez plus de raisons pour lesquelles ils viennent ici? Pourquoi ils viennent ici, les gens, en majorité?
Alors, on a de la... On voit beaucoup de grandes souffrances. Si les gens viennent ici et s'ils viennent en France, c'est pas par plaisir. Hein, c'est pas pour nous embêter, c'est parce que vraiment ils sont dans des... Et on voit des jeunes ou des moins jeunes, des mineurs, hein, qui sont là, avec des traumatismes psychiques importants et des traumatismes physiques. Il y a beaucoup de gens qui ont été maltraités, hein, qui ont été battus, etc. Soit dans leur pays, soit pendant la traversée pour arriver en France, en Libye, etc. C'est pas toujours très cool. Hein. Et donc on voit des traumatismes, et c'est la plus grosse pathologie finalement, des gens qui se plaignent souvent de pathologies, on dirait, psychosomatiques, mais qui sont liées à des traumatismes psychiques. Hein. Et donc on a aussi, j'ai oublié de vous le dire, une psychologue qui vient aussi ici et qui peut éventuellement les entendre et les aider. Hein. Voilà, donc c'est l'un des on pense qu'il y a de la pathologie tropicale, etc. Non, la majorité des... Il y a beaucoup de gens comme ça. Après, il y a de la médecine générale. Il y a des gens qui ont une angine, qui ont une bronchite, qui ont un problème digestif, etc. Hein, des ulcères, des... Voilà. Mais... et après, ce qu'on peut appeler la pathologie tropicale, genre paludisme, etc., on en a, mais très peu. Hein, c'est pas la majorité. La majorité, c'est de la médecine générale et des problèmes psychiques un peu plus ou moins avoués, parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler de tout ça. Hein, et on est là aussi pour, avec tact, hein, d'essayer de leur, de les aider à ce niveau-là.
Alors peut-être qu'il y a aussi des personnes, comme vous le rappelez, qui ont eu des parcours difficiles, donc peut-être qu'ils arrivent avec peut-être des plaies graves, peut-être infectées, des choses difficiles à soigner. Est-ce que ça vous arrive, ça, et auquel cas, qu'est-ce que vous faites?
Alors c'est rare, c'est très rare. Hein. On a le plus souvent, non, ils sont pas. Alors ce qui se passe aussi, c'est qu'on n'est souvent pas en premier accueil. Il y a beaucoup de gens qui passent par l'Espagne et par l'Italie. Hein, parce qu'il y a le circuit Afrique, Libye, Italie, et puis il y a le circuit Maroc, par exemple, Espagne, Algérie, Maroc, Espagne. Et donc, il y a des gens qui ont séjourné déjà quelques semaines ou quelques mois dans ces deux pays, et qui viennent ici. Donc, moi, je n'ai pas vu, hein, dans mon exercice ici, je viens globalement une fois par semaine, je n'ai pas vu de grosses plaies, de choses comme ça. On a plutôt on peut avoir des plaies cicatrisées, mais on n'a pas de grosses pathologies comme ça. Ça peut arriver, à ce moment-là, on les adresse à l'hôpital, hein, parce qu'on ne peut pas ici... Bon, des petites plaies, on peut les soigner avec l'infirmière, mais après, on les adresse à l'hôpital. Mais c'est rarissime, hein, sincèrement.
Voilà, parce que peut-être aussi que des personnes qui n'ont pas de papier peuvent avoir des craintes aussi d'aller se manifester ici dans un centre de soins. Peut-être qu'ils peuvent avoir peur aussi d'être retrouvés. Oui. Est-ce qu'on est soigné de façon anonyme? Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui attendent vraiment le dernier moment, la dernière extrémité pour venir vous voir parce qu'ils ont une crainte quelconque?
Je ne l'ai pas constaté. Maintenant, ceux qui ont vraiment peur, peut-être qu'ils ne viennent pas aussi. Hein, voilà. Il est bien évident que nous, on les interroge sur ce qu'ils ont vécu, etc. Et qu'il est bien évident qu'on leur dit que c'est secret médical et qu'ici, on ne peut pas les dénoncer. On ne peut pas, on ne veut pas et on ne doit pas les dénoncer. Hein. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc on les rassure. Hein. C'est vrai que certains, on sent, en effet, une crainte et ils ont besoin d'être rassurés. Et c'est la déontologie médicale qui s'applique à tout le monde, hein, à eux comme aux autres. On ne doit pas... Tout ce qu'ils disent ici, tout ce qui se passe ici, c'est secret.
Et alors, il y a aussi une dimension importante, je pense, dans le soin, c'est la dimension culturelle. Parce que vous avez des personnes qui viennent de beaucoup de pays, peut-être qu'ils n'ont pas le même rapport aux soins. Comment vous travaillez aussi avec cette dimension-là ?
Alors, la première chose, en effet, qu'on peut évoquer, c'est le problème linguistique. Hein, parce que c'est vrai que... Alors, il y a dans beaucoup de cas, les gens parlent français ou anglais, éventuellement espagnol, certains se débrouillent ici, etc. Il y a des gens qui peuvent les aider, et on a souvent des gens qui sont accompagnés, hein, qui peuvent être accompagnés, mais qui, voilà, avec un traducteur qui est pas officiel, mais qui permet de faire les choses dans la grande majorité des cas. Hein. Voilà. Après, oui, il y a le problème culturel. Je pense qu'il n'y a pas de... Pour les pathologies qu'on voit, tout ce qui est psychologique, c'est vrai que ça peut être difficile. Et la psychologue est formée pour. Enfin, elle est pas là aujourd'hui, elle ne pourra pas vous voir, mais bon, elle a une expérience à ce niveau-là importante. Sur le plan des soins habituels, ça pose moins de problèmes, disons, pour eux. Hein, les seuls problèmes qui peuvent se poser, c'est le rapport homme-femme quand un médecin est homme et qu'il y a une femme. C'est des fois délicat. Donc on a aussi des médecins femmes qui viennent ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des femmes qui font de gynéco. Parce que c'est plus délicat, en effet, suivant sa culture. Voilà. C'est peut-être le plus gros problème qui peut se poser, enfin le plus fréquent, disons. C'est pas un gros problème, mais c'est fréquent et on le règle. Hein, voilà. Hein. Après, bien évidemment, si on faisait de la médecine au long cours, oui, on pourrait aborder plus de choses sur le plan culturel. Mais c'est vrai qu'on est un peu ici dans du dépannage, que les gens ne... Je trouve qu'on n'a pas de grosses difficultés à ce niveau-là à les aborder. Globalement, ça se passe bien. Hein, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà. Hein, mais c'est vrai que parfois... je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut leur montrer que, qu'on les accueille comme ils sont. Hein, comme ils sont, etc. Et qu'on est aussi content de voir des gens qui ont une culture différente, etc. Je crois que des échanges à ce niveau-là, c'est très important. Il y a un côté, pendant l'interrogatoire, tout ça, on demande d'où ils viennent, ce qu'ils ont, etc. Et je crois que c'est important de leur faire ressentir qu'on les accueille, qu'on comprend qu'ils sont différents, hein, mais que positivement. Hein, voilà. Je crois que c'est important aussi de faire ressortir cet aspect des choses. Et on sent que les patients, quand ils sentent ça... Ils sont bien, ça les rassure, ils sont plus à l'aise aussi pour parler, etc. Je crois que c'est important d'être reconnu aussi comme une personne. Voilà.
Comment s'inscrit votre activité bénévole ici dans votre parcours de médecin ? Comment vous êtes venu à être bénévole ici ?
Bon, j'étais médecin généraliste, hein, j'ai fait un certain nombre de choses autres. Et puis j'ai une sensibilité particulière pour les étrangers, venant aussi d'étrangers. Hein, mais voilà, et puis je suis en fin de carrière, disons, j'ai pris ma retraite, donc j'ai plus de disponibilité, même si j'ai d'autres activités médicales, j'ai plus de disponibilité pour consacrer voilà, une journée, enfin pas une journée complète, mais une partie d'une journée régulièrement pour ça. Hein. Beaucoup de médecins qui sont ici sont des médecins qui sont retraités, mais il y en a qui sont encore en activité. La majorité sont des médecins généralistes, mais d'autres ont exercé comme spécialistes, mais ils ont une compétence de médecine générale et ils peuvent aussi, bien sûr, assurer de la médecine générale. Hein.
Vous voulez pas dire d'où vous venez alors ?
D'où je viens ?
Parce que vous dites que vous venez aussi de l'étranger, que vous avez un rapport à l'étranger.
Oui, je viens du Maroc, enfin, voilà, avec des ancêtres qui sont passés par... qui venaient aussi de France, d'Espagne, d'Algérie. J'ai aussi fait un peu de médecine en Afrique, voilà, par quelques missions, et donc aussi pour ça. Mais, voilà.
Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui intéresse peut-être les gens aussi, de savoir... Est-ce qu'ils ont cette question de pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez envie de nous soigner ?
Oui, mais c'est ce que je dis quand moi je... Enfin, j'étale pas ma vie, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que je les interroge aussi sur d'où ils viennent, etc. Et puis il y a des choses qui se passent à ce niveau-là de l'échange de ce que je connais de l'étranger, etc. Et donc je crois que c'est bien, c'est intéressant pour eux, c'est rassurant, c'est... Voilà, hein. Et puis je pense que mes confrères font pareil. Enfin, ils ont pas, tout le monde n'a pas le même parcours, hein, mais voilà. Il y en a un certain nombre qui aussi ont séjourné à l'étranger d'une façon ou d'une autre.
Et dans votre équipe, là, donc des médecins, des infirmières, est-ce que vous voulez nous dire combien vous êtes ? Et est-ce que vous avez besoin peut-être de main-d'œuvre, entre guillemets ?
Tous les bénévoles sont les bienvenus. Hein. On est toujours un peu ric-rac. Des fois, notre secrétaire en chef qui fait les plannings s'arrache un peu les cheveux. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de gens, hein, de pharmaciens, de médecins. C'est infirmières aussi. Hein. C'est important. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent venir se présenter et on les accueillera avec grand plaisir. Hein.
Là, je pense, puisque nous sommes la radio étudiante, notamment aux étudiants infirmiers, aux étudiants en médecine, est-ce que c'est des gens qui peuvent venir ici vous aider ?
Alors, il faut être diplômé. Hein, donc, il faut être, pour être médecin, il faut être diplômé, il faut être inscrit à l'ordre. Donc, on a des médecins qui viennent avec leurs internes, disons, pour leur montrer un peu ce que c'est. Mais ils ne viennent pas donner des soins, ils viennent voir. Hein, on ne peut pas... voilà. On n'accueille que des gens qui sont inscrits à l'ordre, enfin, en tant que médecin ou en tant qu'infirmière, hein, des gens qui sont inscrits officiellement. Voilà. Il y a des questions de responsabilité aussi médico-légale, etc. Hein. Donc, mais tous les médecins en titre, infirmières, pharmaciens, sont les bienvenus.
Merci. Peut-être qu'on peut faire un tour, si vous voulez bien. Bonjour.
Bonjour. Alors, je suis Madame Masseron. Je suis assistante sociale au service social du CPO. Donc, j'ai une mission ici sur l'association Émergence, une mission sur les services d'hébergement d'urgence. Donc ici, je suis sur l'accès aux droits et à la santé. Donc je reçois les lundis, mardis et jeudi après-midi sans rendez-vous, donc sur des permanences, des personnes qui ont besoin d'accéder aux soins. Donc soit par des orientations de partenaires, de nos médecins, du bouche à oreille, etc. Je fais l'instruction de dossiers aide médicale État, CMU, mutuelle, etc. Je me mets en rapport avec les différents partenaires pour les problèmes de soins, de factures. Et puis après, je fais de l'écoute et de l'orientation. Donc les personnes peuvent venir me voir, même avec une couverture maladie, pour une demande par rapport au titre de séjour, par rapport au logement, par rapport à la retraite, etc. Et j'oriente vers les partenaires adaptés.
Est-ce que vous voulez nous expliquer ce qu'est l'aide médicale d'État, qui a droit et comment faut faire pour l'obtenir ?
Alors, l'aide médicale d'État, c'est donc une couverture maladie qui est pour les personnes en situation irrégulière qui n'ont pas de papier. Et les conditions, c'est d'être depuis plus de 3 mois sur le territoire français, mais avec comme preuve d'avoir vu un médecin ou avoir une domiciliation. Donc, par exemple, quelqu'un est venu aujourd'hui voir le docteur Renoul. Il faut compter donc 3 mois pour pouvoir faire une ouverture d'aide médicale État.
Et donc, les personnes qui n'ont pas le délai des 3 mois, qu'est-ce qu'ils font ?
Ils viennent au centre porte ouverte voir nos médecins, avec la pharmacie, avec les médecins, avec les infirmières. On apporte les soins. Et s'il y a une urgence plus importante, il y a une liaison avec la permanence d'accès aux soins santé située dans les différents hôpitaux.
Comment vous définiriez votre travail ici ? Qu'est-ce que ça a de spécifique par rapport aux autres structures où vous pourriez travailler ?
Eh ben, on est sur un public donc émergence spécifique, donc les sans domicile fixe. Donc ce sont effectivement cette représentation des personnes qui dorment à la rue, mais qui ont un domicile qui n'est pas fixe, donc ils peuvent être hébergés aussi par des compatriotes. La spécificité, c'est que donc on accueille des personnes qui n'ont pas de couverture maladie sur le centre de soins, qu'on a effectivement un public plutôt assez migrant, d'origine étrangère.
Pourquoi vous avez choisi de travailler ici alors ?
Va falloir revenir en arrière. moi, c'est ma vocation en fait. Depuis que je suis toute petite, je voulais être travailleuse sociale. J'ai été influencée par Renaud, Coluche, etc. Donc j'ai passé mon diplôme et j'ai eu la chance d'être prise après mon diplôme sur cette association.
Merci. Et peut-être, est-ce que vous avez des structures à suggérer pour des personnes qui auraient besoin d'accompagnement ?
Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. J'ai un plan qui justement explique, je vous montre, justement surtout pour les primo-arrivants, de l'étranger ou sur Tours, où il y a toutes les structures associatives, les points comme la préfecture, l'assurance maladie, etc., et qui accueillent en fonction du profil et du besoin des personnes.
Donc ça, c'est un outil que vous avez construit dessus. Peut-être que vous pouvez nous lire un peu, qu'est-ce que vous avez pu mettre ?
Alors, ce que pour les primo-arrivants, pour les personnes qui viennent me voir, souvent, par exemple, si c'est une personne qui fuit son pays parce qu'il est menacé de mort, je l'oriente vers la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, à Coalia. Après, je vérifie effectivement qui est comment les besoins alimentaires et vestimentaires. Donc, je fais des bons. Donc, je peux orienter vers pour des chèques d'urgence vers le CCAS. Je leur parle donc de nos autres services qui dépendent d'émergence. Donc, la halte du matin, la halte du jour, le restaurant social. Je parle aussi de la table de Jeanne-Marie où c'est un restaurant gratuit. Et les différentes structures pour vestimentaire, active, secours populaire et un autre active ici. Voilà. Et puis donc là, les préfectures, d'autres accueils de jour comme la barque, l'accueil famille qui fait aussi partie de nos services, qui accueille donc les familles à la rue, le secours catholique pour les femmes avec ou sans enfants, les hôpitaux, etc.
Donc il y a plein de structures que vous avez repérées sur ce plan. Mais on voit bien que ces personnes, elles sont en mouvement constant.
Oui, totalement. Par rapport aussi aux domiciliations. Donc il y a la Croix-Rouge pour les personnes sans papier. Donc émergence pour les personnes sur le territoire depuis plus de 10 ans et donc les Français. Il y a le CCAS aussi qui a un peu un tous les publics. L'entraide ouvrière qui, comme nous, s'occupe des personnes qui ont un statut national. Et après, effectivement, tout se rejoint. Donc, une fois qu'ils sont rentrés dans les structures d'urgence, nous, on établit effectivement un partenariat depuis multiples.
Voilà, mais pour qu'on se rende bien compte, c'est-à-dire que, par exemple, avec votre aide, les gens savent que à telle heure, ils peuvent aller là pour telle chose, après, il faut aller là à telle chose. Donc, ça fait, même si tout est repéré grâce à votre plan, ça fait quand même un parcours qui est peut-être pas simple quand on ne parle pas français, quand on vient d'arriver, quand on est fatigué peut-être, qu'on a des soucis de santé.
Alors, du coup, moi, je prends le temps. J'essaye de parler leur langue quand je peux. Il y a Google Traduction. Il y a des fois des traducteurs qui peuvent être présents. On a un réseau de traducteurs aussi. J'ai d'autres fiches qui expliquent effectivement les heures. Et en fait, ce que je fais, c'est en fonction du profil, de là où ils en sont, parce qu'il y en a qui auront peut-être déjà découvert émergence, mais ne savent pas ce que c'est une demande d'asile. Donc là, je vais les orienter, puis leur donner des objectifs dans la semaine à faire. Comme par exemple, un monsieur qui est venu me voir aujourd'hui, où j'ai dit, la première chose qu'il faut qu'il fasse, c'est d'avoir une domiciliation pour pouvoir après avoir des bons alimentaires, vestimentaires, etc.
Vous devez voir quand même des personnes qui arrivent ici peut-être un peu perdues et vous les voyez progressivement avancer dans leur parcours.
Totalement. Ouais, je les vois surtout sur le côté asile où effectivement ils sont encore sur un choc post-traumatique de ce qu'ils ont vécu, usés par rapport à leur exil dans des conditions des fois qui ont été terribles, partis depuis 8 mois, 1 an et arrivés enfin chez nous, effectivement complètement épuisés et fatigués. Ça arrive très très souvent, oui.
Mais il y a quand même sûrement des histoires positives où vous voyez les gens vraiment qui se relèvent, qui vont...
Eh bien, du coup, avec cette prise en charge partenariale, effectivement, avec les dispositifs de l'État aussi, il y a des personnes qui aboutissent à une fin heureuse d'avoir le statut de protection internationale, d'avoir un appartement, de pouvoir travailler et d'avoir un suivi médical, psychologique, etc.
Est-ce que les gens reviennent vous voir quand ça va mieux ?
Oui, je les vois petit à petit. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai une mission ici en accès aux soins, mais aussi sur un service d'hébergement d'urgence. Donc, je peux éventuellement les retrouver sur les hébergements d'urgence, donc voir aussi leur évolution.
Comment vous arrivez à faire la part des choses entre les situations difficiles que vous voyez ici et votre vie ? C'est-à-dire, quand vous sortez du bureau, est-ce que vous arrivez à ne plus y penser du tout ? Ou est-ce que quand même, des fois, ça vous fait réfléchir, toutes ces choses ?
Alors, effectivement, c'est un travail de distance professionnelle d'haleine tous les jours. Je vous avoue clairement que moi, je rentre chez moi et je m'occupe de ma vie à moi. Et qu'au contraire, de rencontrer ces personnes, ça donne un recul sur sa propre vie en disant « j'ai de la chance ». Et du coup, on profite encore plus de ce qu'on a. Donc du coup, voilà, effectivement, comme dans n'importe quel travail, le soir, ça peut venir hanter un peu l'esprit pour certaines situations. Mais voilà, je continue à m'occuper de moi et à vivre.
Bonjour madame.
Bonjour.
Alors vous, vous travaillez ici dans le local pharmacie, c'est ça ?
Et il faut être pharmacien, enfin, ou avoir travaillé dans la pharmacie, puisqu'on est sous une responsabilité de pharmacie. Donc on a des médicaments d'urgence et on ne fournit pas en principe les médicaments de confort, il n'y en a pas.
Est-ce que vous voulez préciser pour nos auditeurs ce que vous appelez médicaments de confort ?
Médicaments de confort, c'est-à-dire des médicaments pour de la bobologie pure, un petit peu parce qu'on a des bleus ou des choses de ce genre qui ne sont pas d'extrême urgence.
Donc là, tout ce qu'on trouve, c'est des choses. Est-ce que c'est que des choses qu'on peut obtenir sans ordonnance ? Par exemple, je vois le paracétamol, mais je pense qu'il y a d'autres choses.
Ne donnons les médicaments que sur prescription médicale. C'est-à-dire, ce sont les médecins qui fournissent les médicaments. C'est pas nous. Et après avoir consulté les personnes.
Est-ce que vous voulez nous dire un peu ce qu'on trouve là dans vos rayons ?
Alors bon, comme vous avez dit, le paracétamol, bon, qui est un antalgique, qui est... On peut faire un tour, ce sera le plus simple. Vous avez ici tout ce qui sert au métabolisme, bon, là, donc, tout ce qui est pour la dentition, pour les maux d'estomac, pour les maux de ventre, enfin pour la constipation. Ensuite, après, vous avez tous les médicaments pour la tension, tout ce qui est cardiaque. Tout ce que vous avez ensuite, c'est pour la dermatologie, mais champignons, pour les peaux sèches, enfin tout ce qui est donc dermatologie. Ensuite, bon, vous avez pour soigner les plaies. Là, c'est tout ce qui est contraception, tout ce qui est prostate. Et après, on passe de l'autre côté avec tout ce qui est... Vous avez ici les indications. Tout ce qui est hydrocortisone pour les piqûres, les anti-infectieux. Donc sur deux rayons, les antidouleurs, enfin les traitements anti-inflammatoires. Puis ensuite, un peu de système nerveux, mais dans les choses vraiment bien définies. Tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est ophtalmologie, les sirops et les antiparasitaires, puisqu'on a quand même beaucoup de gens qui sont dans la rue.
Tous ces médicaments, en fait, ils viennent d'où ? Ils vous sont livrés comment ? Comment vous faites les commandes ? Est-ce que vous avez des limites, en fait, des quotas de médicaments ou pas du tout ?
Alors, on est fourni une fois par mois par le pharmacien sans frontières qui fait tout ce qui est médicaments d'urgence. Et donc, je pense que c'est subventionné et par les laboratoires et surtout par les caisses d'assurance maladie, puisqu'on fait quand même du social.
Donc, vous parliez du fait que vous accueillez des personnes qui sont à la rue. Par contre, peut-être que vous ne donnez pas tous les médicaments, tous les traitements de sevrage ou des choses comme ça, la méthadone, des choses comme ça, vous, non ?
Ça, nous, on n'a pas du tout. On n'a pas ce genre de produit. De toute façon, il y a un centre d'alcoolologie qui est indépendant de nous, puisqu'ils ont après la possibilité d'aller à l'hôpital, d'être suivis par la PASS. Enfin, ça, le côté médical de ce genre de choses, je pense que le docteur Renaud est beaucoup mieux placé que moi pour vous le dire.
Alors, je me tourne vers le docteur Renaud.
Non, on ne fait pas tout ce qui est méthadone, etc., on ne fait pas. Et sur le plan de maladies psychiques, c'est pareil, c'est limité. Après, on adresse à l'hôpital. Voilà, on ne fait pas. Il y a le centre pour Bretagne pour voilà. Donc, on a des relais, mais on ne s'occupe pas de ça parce que c'est un petit. C'est spécifique, oui.
Voilà, donc je vois qu'il y a de la bétadine, c'est-à-dire que vous faites pour les pansements, un protocole bétadine.
C'est l'infirmière qui s'en occupe. Nous, après, il y a un traitement de soins, un suivi, mais quand c'est des choses importantes, je crois qu'ils viennent régulièrement par les infirmières.
Oui, l'infirmière fait des pansements quand il y a quelque chose ou quand il y a une plaie qu'il faut enlever des points, etc. Par contre, bien sûr, on peut voir des petites plaies en médecine générale et on donne à ce moment-là des antiseptiques, bien évidemment. Hein, on peut prescrire des antiseptiques. Tout ce qui est ici, bien sûr, est prescrit. C'est le médecin qui voit avant les patients, qui prescrit les médicaments. Personne ne peut venir ici avec une ordonnance sans être vu par le médecin pour se fournir en médicaments.
Nous, on ne voit pas, en fait, les patients.
Oui.
Nous,
on gère les stocks. Et...
On gère les stocks, on gère les produits, on les enlève quand ils sont périmés. Enfin, on fait un travail de pharmacie, mais on n'est pas en contact en réalité avec le client. On ne voit pas les gens, c'est les médecins qui leur donnent, qui leur expliquent la posologie. Là, nous, on n'a pas, je vais dire presque, pas de contact avec le client.
Et donc, je vois là, justement, près de vous, il y a cette caisse avec des béquilles.
Ça, c'est des choses qui nous sont ramenées, qui nous sont données. Donc, effectivement, s'il y a besoin, on les donne. Mais ça ne bouge pas beaucoup parce qu'on n'a pas trop ce genre de produits. C'est plus, après, dans les centres d'hébergement de nuit, dans ces choses-là, puisqu'on travaille sur quelque chose de groupé. Quand il y a de la grosse pathologie, ce n'est pas nous qui agissons. C'est l'hôpital, c'est la PASSE, enfin... Il y a d'autres circuits. Nous, on est là pour vraiment l'intervention, je vais dire, d'urgence.
Le CPO a aussi un rôle de santé publique, puisqu'ils orientent les patients vers les structures chargées du dépistage de certaines maladies transmissibles, assez répandues en Afrique, notamment l'IRSA pour le dépistage de la tuberculose, le CEGID, CEGID pour le dépistage de l'hépatite B, et du sida, l'association AIDE vient aussi régulièrement au CPO pour pratiquer des tests rapides pour le dépistage de ces deux affections. Enfin, le CPO effectue aussi certaines vaccinations ou oriente les patients vers le centre de vaccination.